Europe Matin. Ombline Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue à vous sur Europe 1. Nous sommes le lundi 24 janvier. Et on est ravis de vous accueillir.
Voilà.
On avait prévu une petite musique, mais Fabrice Lafitte n'a pas envie ce matin, visiblement. C'est la console.
On va être obligé de chanter alors. La chanson de Sacha Distel, des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Voilà, parce qu'on va parler effectivement de fruits et légumes et de cette consommation des fruits et légumes qui a baissé.
Des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes.
Et ben voilà.
Je suis ravie que Sacha Distel arrive dans finalement. Mon lancement, finalement. Donc, cette consommation des fruits et légumes a baissé l'an dernier par rapport à 2020.
Voilà, c'est ce que le contre-coup des confinements, fini les
Exactement.
Bons petits plats à la maison, c'est ça?
Et oui, d'ailleurs, les fruits et légumes bio sont ceux qui accusent la plus forte chute, moins 11%. Et dans le même temps, certains fruits et légumes frais nous coûtent de plus en plus cher. Les explications à 5h45 du secrétaire général de l'Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. À la une de l'actualité, Julien.
Un nouveau pass. Tout beau, tout neuf, le pass vaccinal remplace à partir d'aujourd'hui le pass sanitaire pour les plus de 16 ans. On va évidemment tout vous dire dessus, mode d'emploi complet à suivre dans nos journaux.
Mais on va aller plus loin à 6h10, Julien, avec le secteur le plus impacté par ce pass vaccinal.
L'hôtellerie-restauration, et pour plusieurs raisons. Déjà parce que les restaurateurs et les cafetiers sont les seules professions qui peuvent, en plus de votre pass vaccinal, vous demander votre pièce d'identité en cas de suspicion de fraude. Pas certain qu'ils soient nombreux tout de même à jouer les policiers, on verra cela. Et puis ce pass vaccinal, il s'applique aussi aux salariés, aux serveurs, réceptionnistes, etc. Un double impact. Certains diront une double peine, dont on va parler avec notre invité à 6h10, donc Didier Chenel, le président du GNI, l'une des organisations patronales de l'hôtellerie-restauration. Enfin, on terminera avec votre partition, Blin.
Oui, son langage est simple, imagé et rigolo.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre.
Renaud qui nous chope par le patelot, on a envie de faire partie de sa bande et rendez-vous avec la partition de Renaud à 6h20.
Voilà, vous avez l'essentiel du programme, on commence avec la météo. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Question simple, est-ce qu'il y aura du soleil aujourd'hui?
Alors il y aura du soleil aujourd'hui, cet après-midi. Ce matin il va falloir être patient et surtout on va avoir très froid. Vous avez l'écharpe, hein, c'est le baromètre, il n'y a plus besoin de regarder les températures. On sait que quand Julien a son écharpe en studio, c'est qu'il va faire froid. Alors nous allons avoir aujourd'hui quasiment le même temps qu'hier, avec sur toute la moitié nord du pays, beaucoup, beaucoup de nuages bas, beaucoup de brouillard ce matin. Dans le sud-est également, c'est très gris. Et soyez très prudents, parce que vu que nous avons des gelées sévères, hein, alors le mot sévère, c'est Météo France qui l'emploie quand même. Donc gelées sévères plus brouillard, on va avoir un risque très important de verglas sur une grande partie du pays. Cet après-midi, le ciel va se dégager, nous aurons des éclaircies qui seront nombreuses, très agréables hein, sur une grande partie du pays, mais les températures sont froides. Moins 15 à Mout dans le Doubs ce matin, moins 9 à Pontarlier, moins 7 à Rodez, moins 6 à Montauban, moins 4 à Clermont-Ferrand et Toulouse, moins 1 à Marseille et Saint-Etienne, 0 à Dijon, 4 pour Paris et Lille et 5 à Dunkerque. Cet après-midi, comptez 1 degré à Saint-Etienne, 16 à Mende et 5 à Paris.
C'est noté, merci beaucoup Anissa Dadi et à tout à l'heure. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes les bienvenus, il est 5h. Je vous le disais dans le sommaire, c'est le grand jour pour le pass vaccinal. Entrée en vigueur ce matin pour aller boire un café ou voir un film au cinéma. Votre QR code est-il encore valable? Quelle solution pour les non-vaccinés? Réponse dans un instant. Pas de montée des marches ce week-end à Cannes, mais opération séduction pour Éric Zemmour. Si le candidat parvient à recruter dans les rangs du Rassemblement National, cela semble plus compliqué en revanche chez les Républicains. Patience, ça arrive, assure son entourage. Et puis cette information Europe 1, Bercy lance aujourd'hui un comité de crise pour aider les entreprises à faire face aux tensions liées aux pénuries de matières premières comme dans le BTP. Rencontre dans ce journal avec un patron confronté à cette situation.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce lundi 24 janvier vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Vous le disiez Julien, jour J pour le pass vaccinal. Dès ce matin, il devient obligatoire pour par exemple boire un café en terrasse pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. Céline Géraud, comment sait-on ce matin si notre pass vaccinal est valable ?
Alors, si vous avez un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire 3 doses, votre passe vaccinal est activé depuis ce matin. Vous pourrez donc aller au restaurant, au cinéma, prendre le train ou l'avion, comme avant. Deuxième cas de figure, vous n'avez que 2 doses. Vous avez 7 mois après la 2e injection pour effectuer votre rappel pour que votre pass reste activé. Pour ceux qui ont été récemment contaminés et qui n'ont que 2 doses, la dose de rappel reste obligatoire dans un délai de 7 mois après l'infection et le certificat de rétablissement fait office de pass dans l'intervalle.
Et Céline, pour les non-vaccinés, il existe une solution ?
Eh bien pour eux, pas de restaurant, de cinéma, de théâtre, impossible aussi de prendre les trains, les avions. Les non-vaccinés n'ont accès qu'aux établissements de santé munis d'un test négatif et aux meetings politiques. C'est l'une des exceptions du dispositif. Le pass vaccinal n'est pas demandé aux participants. Pour les inciter à sauter le pas, tous ceux qui feront leur première injection avant le 15 février obtiendront leur pass vaccinal immédiatement, mais à 2 conditions, faire la 2e injection dans un délai d'un mois et présenter un test négatif de moins de 24 heures pour pouvoir accéder dans l'intervalle aux différents lieux soumis au pass.
Merci Céline Giraud, chef du service Société d'Europe 1. Face aux restrictions mises en place des heures hier à Bruxelles où 50 000 personnes ont défilé, selon les autorités, dans le cortège des personnes venues de toute l'Europe qui ont convergé vers le siège de l'Union européenne. Bilan, 3 policiers et 12 manifestants hospitalisés.
Image effectivement très impressionnante. Emmanuel Macron fait part de son côté de sa très vive émotion après la mort samedi du brigadier Alexandre Martin au Mali.
53e soldat français tombé au Sahel depuis 2013 dans un contexte de vive tension entre Paris et Bamako, accusé de déployer des mercenaires russes du groupe Wagner. Le brigadier est décédé après une attaque au mortier visant la base française de Gao dans le nord du Mali. 9 blessés légers à signaler également, heureusement sains et saufs. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, nous détaille les circonstances du drame.
Le brigadier Alexandre Martin est décédé rapidement de ses blessures malgré une prise en charge immédiate par l'antenne médicale du camp de Gao. Dans la foulée, nous avons fait décoller une patrouille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque qui ont intercepté et neutralisé les assaillants. À ma connaissance, l'attaque n'a pas été revendiquée et nous ne savons pas s'il s'agit de terroristes plutôt affiliés à Al-Qaïda ou à Daesh. Il est vrai qu'il y a un contexte politique malien qui est hostile, qui est compliqué, avec une junte qui refuse d'organiser une transition électorale. Donc, tout l'enjeu, c'est maintenant de trouver la voie qui va nous permettre, à nous la France, mais aussi à nos alliés africains, nos alliés européens, de continuer la lutte contre le terrorisme djihadiste qui pourrait un jour frapper la France ou l'Europe.
Des propos recueillis au micro européen de Zoé Pallier. Hier, c'est un camp de la mission des Nations Unies à Ménaka, dans le nord du Mali, qui a été la cible de tirs d'obus de mortier. Pas de victimes à signaler.
À 3 mois pile du second tour de la présidentielle, la campagne bat son plein. Les candidats enchaînent les déplacements.
Et oui, ce week-end, le rendez-vous était à Cannes pour Éric Zemmour, terre des Républicains et du Rassemblement National. Après avoir recruté Jérôme Rivière et Gilbert Collard, le candidat qui souhaite l'union des droites semble réussir à convaincre dans les rangs de Marine Le Pen, Victor Chabert, moins dans ceux de Valérie Pécresse.
Eh bien, l'équipe d'Éric Zemmour assure que non. Selon l'entourage du candidat, les ralliements se presseraient, notamment du côté des Républicains. Et ils auraient désormais pour principal problème de trouver le bon timing pour les annoncer. Mais pour l'instant, hormis Guillaume Pelletier, aucune autre personnalité LR de premier plan n'a franchi le pas. Du côté des Républicains, d'ailleurs, on se veut assez serein, on ne craint pas les défections. Et Valérie Pécresse reste assez haute dans les sondages, un élément important. Car si elle baisse, cela pourrait pousser des cadres à rejoindre Éric Zemmour, c'est d'ailleurs le pari des stratèges de reconquête. Pour eux, Valérie Pécresse va baisser dans les sondages et, côté Marine Le Pen, les ralliements venant de son propre camp vont la fragiliser. Or, il ne suffit que de quelques points pour qu'il passe devant les candidates LR et RN et les électeurs sont très volatiles dans leur choix. Preuve de la confiance qui règne dans le camp Zemmour après un week-end de campagne plutôt réussi, un bain de foule sans encombre et un meeting devant plus de 4000 personnes à Cannes. On pense que le mois de février sera le mois de l'inversion des courbes.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1. À gauche, c'est le carton pour la primaire populaire avec un total de 467 000 inscrits selon les derniers chiffres. Les votants départageront les 7 personnalités de la gauche de jeudi à dimanche. Mais du côté des candidats, cette primaire est plutôt impopulaire. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ne veulent pas y participer.
C'est la conséquence des pénuries de matières premières dans les entreprises. Les conflits se multiplient, notamment avec les clients. Alors Bercy lance un nouveau dispositif et c'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin.
Oui, un comité de crise auprès du médiateur des entreprises mais aussi du médiateur du crédit. Objectif, apaiser les tensions puisque 20% des dossiers qui arrivent chez le médiateur des entreprises concernent des difficultés d'approvisionnement. Carole Ferry.
Le cas de ce chef d'entreprise du bâtiment est typique des conflits qui affluent actuellement. À la tête d'une entreprise de 30 salariés, il signe un devis en janvier 2021 pour un chantier à 500 000 euros. De quoi remplir le carnet de commandes pour plusieurs mois. Sauf que le chantier débute un an plus tard et entre-temps, le prix des matières premières a flambé, notamment le prix du bois. Il se retrouve donc avec un surcoût à plus de 100 000 euros. Il demande alors un effort supplémentaire à son client qui refuse. Et là, c'est le début du casse-tête.
Sur un marché de 500 000, 100 000 euros de plus d'achat, ça veut dire qu'obligatoirement, on va exécuter ce marché à perte. On se disait, c'est pas possible, on peut pas s'engager à faire ça. On risque de mettre l'entreprise en péril. Donc on s'était dit, on va essayer de ne pas faire ce marché, de le faire annuler. Mais malheureusement, on est engagé avec des signatures. On aurait été obligé de verser des dommages au niveau de notre client. Et se retrouve un petit peu dans un sac infernal. On a les pieds et mains liés dans tous les sens.
Le dossier est maintenant entre les mains du médiateur de l'entreprise. Objectif, trouver un accord entre les deux parties pour que le maintien du chantier n'entraîne pas un dépôt de bilan de l'entreprise.
Carole Ferry.
Ces pénuries concernent aussi, on en parle régulièrement sur cette antenne, la main-d'œuvre. Comme dans l'hôtellerie-restauration, il manque 230 000 salariés en France.
Et en Chine, la parade est toute trouvée. Des robots pour remplacer les serveurs et parfois même les cuisiniers installés dans ce qu'on appelle les restaurants intelligents. On se les arrache en raison de l'épidémie pour éviter les contacts. Ils seront aussi déployés dans les cantines des athlètes pour les JO qui débutent dans 10 jours. Le reportage de notre correspondant Sébastien Lebelzik.
On se croirait dans un vaisseau spatial avec ses lumières bleutées, son réseau de rails et de tuyaux dans lequel circulent les plats et son armée de petits robots blancs chargés de plateaux et montés d'un écran clignotant. Ici, tout est automatisé, explique le patron Wang Jin.
Il y a plusieurs systèmes. Les plats volumineux comme les steaks et les hamburgers sont apportés par des robots et les autres sont envoyés par ce système de rails automatique et arrivent pile devant le client.
Seuls quelques serveurs, humains, ceux-là, sont en poste pour répondre aux questions des clients. Mais l'objectif, c'est d'éviter autant que possible les contacts et donc les risques de tomber malade. Cette jeune pékinoise est adepte de ces nouveaux restaurants.
On sort beaucoup moins qu'avant avec l'épidémie. Mais ce type de restaurant, je trouve que c'est amusant. C'est plus hygiénique, c'est bien mieux comme ça, il n'y a pas de risque.
On trouve de plus en plus de ces androïdes dans les restaurants chinois, moins cher qu'un serveur, plus efficace et jamais malade. Le système est si bien rodé que les repas des athlètes pendant les Jeux Olympiques de Pékin seront aussi préparés et livrés par des machines. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Ça donne envie.
Ouais. Et puis on termine ce journal avec cette information qu'on a appris cette nuit. C'est le décès du célèbre créateur français Thierry Mugler. Âgé de 73 ans, il est décédé de mort naturelle, selon son attaché de presse.
Merci beaucoup, Alban Leprince, pour toutes ces informations.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses sur Europe 1. Le Paris gagnant avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 406 Fantastic Spirit. Dépendant de l'entraînement en très grande forme, celui de Jean-Claude Rouget, ce pur sang expérimenté, trouve des conditions de course idéales pour son retour sur la piste en sable fibré cagnoise, sur laquelle il totalise pas moins de 2 victoires en seulement 4 tentatives. Dès lors, il devrait pouvoir justifier les bruits très favorables dont il fait l'objet avec insistance depuis plusieurs jours, le matin, sur les pistes d'entraînement. Notez bien, pour Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 6, Fantastic Spirit.
Fantastic Spirit, le numéro 6. Merci beaucoup Thierry Léger. Et vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h10, ça passe. Hein. Bonjour, bon lundi. Vous commencez votre journée sur Europe 1 avec le pressing. Et nous sommes rejoints par Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour.
Les unes de vos journaux pour commencer. Carburant et vous, ça vous coûte combien? C'est la question à la une du Parisien aujourd'hui en France qui est allé à la rencontre de ses lecteurs, artisans, salariés ou encore retraités qui racontent comment la flambée des prix du gazole notamment plombe leur compte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'enjeu du pouvoir d'achat est au cœur de la présidentielle. C'est le titre à la une du Figaro qui liste les différentes propositions des candidats. Valérie Pécresse propose par exemple une augmentation des salaires de 10% jusqu'à 3 000 euros. Et puis la chute de la tech fait trembler les bourses mondiales. Voilà ce que l'on peut lire à la une des Échos, où l'on voit par ailleurs une courbe en chute libre, celle du Nasdaq, qui a plongé de 14% depuis son pic de novembre. Voilà pour les unes les plus marquantes de ce matin. Omblin, quel article vous a tapé dans l'œil?
La bulle sanitaire des enfoirés dans le Parisien aujourd'hui en France. Immersion avec masque et gel hydroalcoolique sur le tournage de l'émission 2022 baptisée Un air d'enfoiré.
Il y aura toujours un rendez-vous.
y aura toujours un rendez-vous, l'hymne des chanteurs solidaires au Resto du Cœur cette année. Un rendez-vous donné donc à Montpellier, à une quarantaine d'artistes et à 400 autres personnes impliquées. Mais pas au public, privé une fois de plus de concerts, les enfoirés y croyaient. 8500 billets vendus pour chaque concert, 600 tours organisés entre jeudi dernier et aujourd'hui, mais impossible de choisir seulement 2000 spectateurs parmi les 8500 par jour, donc huis clos décrété. À 15 jours près, nous dit le président des enfoirés des Restos du Cœur, on perd 4 millions d'euros et donc 4 millions de repas à distribuer. Il a fallu changer tous les tableaux qui impliquait le public et symbole marquant l'entrée de la Sud de France Arena qui devait être empruntée par les spectateurs est encombrée de matériel. Pas de public, mais une émission télé à préparer. Alors tout le monde est sur le pont, le tournage s'étale sur 3 jours. Il a commencé samedi et se termine ce soir. 22 tableaux à mettre en boîte et les artistes les découvrent souvent juste avant de monter sur scène. Des artistes qui n'ont pas pu tous répondre présents à cause d'Omicron, annulation de Jane Birkin, à qui les enfoirés vont rendre hommage d'ailleurs. Pas de Jennifer non plus, Michel Larocque, Claire Kame, Christophe Maé. On apprend que Michael Youn, confiné, attendait hier encore d'être négatif pour espérer de participer aujourd'hui. Alors pour se consoler, les enfoirés, ce sont aussi de nouveaux visages. Anne Silla, qu'on a découvert dans The Voice, ça remonte un petit peu maintenant. Camélia Jordana, Joy Jonathan, le comédien Arnaud Ducré et Jérémy Frérot. Des retours, Catherine Lara avec son violon après 10 ans d'absence. Des piliers, Patrick Bruel, Zazie, Nolwenn Leroy et puis des guests lors du tableau d'ouverture. Kylian Mbappé et Thomas Pesquet. Rendez-vous en mars prochain pour le découvrir sur TF1. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Voilà le tournage des Enfoirés sous haute surveillance dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Ça reste la plus efficace. Hein.
Ouais, ça reste la meilleure.
Merci beaucoup, Ombline. Martin, on vous écoute.
Le 24 avril prochain, on connaîtra le nom de notre nouveau président. C'est dans 3 mois pile aujourd'hui, ça n'a échappé à personne.
Ou présidente.
Ou présidente, bien sûr. La campagne bat déjà son plein. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Les candidats sont sur la ligne de départ, sont légion. Mais ce matin, coup de projecteur sur un nouveau parti qui est entré en campagne ce week-end et dont vous ignorez probablement l'existence. Ah. Hein, le Parti de la Bière.
Effectivement.
Alors, ça ressemble à une blague, hein, mais non, c'est bien vrai. Le Parti de la Bière a organisé son premier meeting vendredi dernier à l'Arche. C'est en Corrèze, ça se passait évidemment dans une brasserie.
Et j'imagine qu'ils ont un vrai programme, Martin.
Ouais, tout à fait, il est assez simple, promouvoir l'art de la bière artisanale. C'est la présidente du parti, Virginie Maréchal, qui l'a expliqué à nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire développer la production de houblon, les malteries, les circuits courts ou encore les producteurs locaux. Après ce premier meeting plutôt concluant, le Parti de la Bière espère organiser d'autres réunions politiques. Toujours le vendredi soir.
Et ils veulent vraiment se présenter en avril prochain ?
Alors non, ils n'ont pas vraiment la volonté d'accéder au pouvoir, même si à long terme, Virginie Maréchal n'exclut pas de présenter des candidats pour des élections locales. En fait, si le Parti de la Bière est un parti et non pas une association classique, c'est à cause du Covid. Aujourd'hui, toutes les associations sont soumises à des jauges lorsqu'elles organisent des rassemblements, ce qui n'est pas le cas des partis politiques en cette année électorale.
Finaux.
Exactement, on avait beaucoup parlé au moment où ces jauges ont été décidées. Alors si l'initiative peut prêter à sourire, elle s'appuie sur un précédent. En Autriche, il y a 2 ans, un autre parti de la bière, le Bierpartei, avait tenté d'instaurer une biérocratie. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble une biérocratie, hein, mais ils avaient quand même rassemblé 2% des voix, ça fait quand même 13 000 voix dans le land de Vienne. Le Parti de la Bière a organisé son premier meeting politique, c'est-à-dire sur le Huffington Post.
Et rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération, bière et autres.
Évidemment.
Même si une petite bière de temps en temps, bref.
Ah bah oui, hein. Avec modération, c'est toujours impeccable.
De là, en faire une bureaucratie.
Oh, vous savez. Merci beaucoup, Martin. C'est dans Les Échos ce matin que j'ai trouvé mon bonheur avec cet article sur le renouveau de Gaël Monfils. Le français, ça ne vous a pas échappé, est en grande forme, ce qui, dans le petit monde du tennis, est une phrase qu'on prononce assez rarement, il faut bien l'avouer. Alors quand ça arrive, on ne boude pas son plaisir, on se prend même à rêver. Voilà ce qui explique en partie les 5 articles dont Gaël Monfils fait l'objet ce matin dans l'Équipe, Le Parisien, Le Figaro, La Croix et donc Les Échos. Il faut dire que Le Parisien s'est qualifié hier pour les quarts de finale de l'Open d'Australie sans avoir lâché un seul set depuis le début du tournoi. Performance impressionnante. Il n'avait plus atteint ce niveau dans un grand chelem depuis 2016. 6 ans donc. 6 ans que c'est le temps qu'a mis Gaël Monfils pour retrouver la lumière, enfin plutôt 2 ans et demi, la lumière et son fameux mojo pour se défaire de cette sombre période Covid qui lui a comme coupé les jambes. 5 matchs disputés en 2020, 5 défaites. Un cauchemar cauchemar qui a pris la tournure d'une humiliation il y a tout juste un an quand mon fils quittait l'Open d'Australie en larmes après une piteuse humiliation élimination au premier tour. Alors comment expliquer une telle renaissance, un tel retour en grâce, d'autant plus remarquable pour un joueur approchant la fin de carrière du haut de ses 35 ans? Plusieurs explications à cette seconde jeunesse. Le Parisien aujourd'hui en France met l'accent sur l'entraîneur qui a pris en main le français depuis un an, Günther Bresnik, l'homme qui a ressuscité Gaël Monfils, titre Le Quotidien, analyse partagée d'ailleurs par Le Figaro. Les Échos, de leur côté, mettent en avant un changement, on va dire, plus anodin. Depuis le 1er janvier et pour les 5 prochaines années, Gaël Monfils joue avec une raquette siglée Artengo, l'une des marques de Decathlon. Oui, Gaël Monfils, qualifié pour les quarts de finale de l'Open d'Australie, joue avec une raquette Artengo, raquette grand public, que l'on pourra d'ailleurs s'offrir au printemps pour une centaine d'euros, soit 3 fois moins que la concurrence, comme Wilson, la précédente marque utilisée par le français. Et comme Gaël Monfils ne fait pas les choses à moitié, le partenariat qu'il a signé avec Artengo comprend aussi les vêtements et les chaussures. C'est donc en 100% Décathlon que notre champion arpente la Rod Laver Arena, ce qui, il y a une semaine, n'a pas manqué de faire pouffer certains observateurs tricolores. Vous comprenez, le tennis, c'est chic et pas cheap. Le coup droit de Monfils s'est chargé de leur couper la chic. Gaël Monfils qui, avant de se lier ainsi avec Artengo, a fait un test à l'aveugle, un test avec 6 raquettes qualifiées de noires, c'est-à-dire sans cosmétique ni marque apparente. Après plusieurs essais, l'heureux élu est toute désignée. Non, ce n'est pas une Babola, ni une Head, ni une Wilson. Non, c'est l'Artengo TR960 Tour, très précisément, que vous pouvez d'ailleurs trouver en rayon. J'ai cherché sur Internet, on peut la commander sans aucun problème. Alors évidemment, une des équipes de la marque lilloise, parce que Decathlon, vous savez, ça vient du nord de la France, ont ensuite légèrement modifié la raquette aux demandes du joueur. Ils ont notamment adapté le manche pour qu'il puisse accueillir les immenses mains de Gaël Monfils. Mais pour le reste, rien n'a changé. Ce qui va très bien à notre champion qui déclare à qui veut bien l'entendre que c'est la meilleure raquette qu'il a jamais eue en main. Vous pourrez l'avoir à l'œuvre demain à partir de 10h face à l'Italien Berrettini en quart de finale donc de l'Open d'Australie.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Julien. C'est tout pour le pressing. Déjà pas mal. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
Encore, à tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce lundi, ce journal permanent avec Alban Leprince.
La fin de la pandémie en Europe semble plausible avec Omicron. L'espoir de l'Organisation mondiale de la santé hier, le variant pourrait contaminer 60% des Européens d'ici mars. Il faut tout de même rester prudent, rappelle le directeur de la branche régionale. C'est le grand jour pour le pass vaccinal avec une dizaine de jours de retard par rapport au calendrier initial. Il entre en vigueur ce matin pour toutes les personnes âgés de plus de 16 ans. Il reste encore 4 500 000 Français à vacciner contre le Covid. Gérald Darmanin annonce la fermeture imminente d'ici quelques heures ou quelques jours du site internet La Voix Droite. Le ministre de l'Intérieur l'accuse de diffuser des contenus salafistes appelant à la haine et au djihad. Et puis du foot, après un mois d'absence, le retour de Lionel Messi hier pour la belle victoire du PSG sur Reims 4-0. Bordeaux s'est imposé à domicile face à Strasbourg 4-3, matchs comptant pour la 22e journée de Ligue 1.
Europe 1. Très bon réveil avec nous et à présent, ce sont les initiatives en France. On met en lumière chaque jour celles et ceux qui font bouger les lignes. Et ce matin, Julien, direction le Tarn.
Bonjour Adrien Martin.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le gérant du Samy's Diner au Séquestre. C'est tout près de la jolie ville d'Albi. Et au sein de votre restaurant, vous proposez ce mois-ci à vos clients une expérience, je dirais, extrême, limite traumatisante. Expliquez-nous.
On va pas dire ça quand même, on va faire peur aux gens là. Non, c'est juste que je propose aux gens, si vous voulez, de laisser le téléphone de côté le temps d'un repas, tout simplement.
C'est-à-dire que le téléphone, c'est vous qui le prenez quand vous donnez la carte ?
Non, on va pas dire ça, mais en gros, donc les gens, une fois qu'ils sont installés à table, on leur amène une petite panière, si vous voulez, qu'on pose sur la table. Et on leur propose de jouer, on va dire ça comme ça, ou même, je pourrais dire, un petit défi. Et le principe, c'est qu'ils mettent le téléphone dans la panière et qu'ils ne le touchent pas pendant tout le repas.
Et s'ils y arrivent,
s'ils jouent, là, ils ont le petit cadeau, on va dire la récompense à la fin. On leur offre le café, le thé ou le digestif.
Ah oui, d'accord. Et ça, c'est jusqu'à la fin du mois de janvier ?
Exactement. Alors, à la base, voilà, j'ai appelé ça le no-phone January, donc c'était que pour janvier. Mais vu la réussite, on va dire, de l'animation et que tout le monde est content, je vais le faire différemment, mais ça va être prolongé par la suite.
Oui, No Phone January, qui est une référence au Dry January, où l'on ne boit pas pendant tout le mois de janvier.
À la base, l'idée, voilà, c'était vraiment de jouer sur les nouvelles résolutions, mais je m'aperçois que voilà, les gens sont vraiment réceptifs et ça leur plaît. J'ai envie de dire, ils font des efforts, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, là, j'ai pris la décision, je vais le prolonger. Après, voilà, ça sera sous forme de volontariat. On va dire, voilà, les gens qui veulent toujours récupérer la petite panière à l'entrée et toujours se déconnecter, on va dire, du téléphone le temps d'un repas. Et ils auront toujours le café ou le petit digestif à la fin du repas.
À la louche, vous avez quelle proportion de clients qui acceptent le défi?
On va dire 90%.
Ah oui, tout de même.
Ce qui est vraiment très bien.
Donc à la fin du mois, ça vous coûte un peu d'argent cette affaire quand même?
Ça coûte un peu d'argent, mais bon, c'est pas grave. Le problème n'est pas là. Ça part d'une bonne intention. Voilà, les gens passent un bon moment. Ça fait partie voilà, de l'animation du restaurant. Donc,
et puis ça fait parler de votre restaurant.
Exactement, je m'en cache pas aussi. C'est le but. Je pensais pas que ça irait si loin, on va dire, mais ça fait partie du jeu. Ouais. Forcément, les gens, voilà, ils vivent, j'ai envie de dire presque, ils vivent une expérience de passer un repas sans téléphone. Donc forcément, le soir, en rentrant à la maison ou le lendemain au boulot, ils en parlent et ça fait un petit peu bouche à oreille. Et du coup, les gens viennent sachant qu'ils n'auront pas le téléphone pendant le repas.
Qu'est-ce qu'ils vous disent au moment de payer l'addition? Finalement, c'était une super expérience. On a redécouvert ce que c'était de manger sans regarder son téléphone toutes les 15 secondes.
Exactement, oui, c'est il y a de très bons retours. Les gens, alors maintenant, les gens, la plupart des gens qui viennent au restaurant le savent qu'on propose cette animation. Mais surtout, au début de mois, les gens étaient un peu pris par surprise. J'ai envie de dire, quand j'arrivais avec ma petite panière en disant « Mettez vos téléphones là pour le repas », ils me regardaient « Qui c'est ce fou ? Pourquoi ?» Mais au final, je m'aperçois vraiment que les gens, maintenant, ils jouent le jeu. La plupart le savent, donc en venant, comme je vous ai expliqué. Et ils sont très contents. Ils sont très contents d'arriver à se mettre des limites et de se dire « Pendant une heure et demie, on pose le téléphone et on profite vraiment du moment présent. »
Qui sont les plus joueurs, ceux qui poussent pour respecter votre défi, votre proposition? C'est les parents ou les enfants?
Les jeunes, j'ai envie de dire, les 15-35 ans, vraiment, dès que je leur propose de l'animation, de suite, sans réfléchir, à chaque fois ils jouent le jeu, ils mettent le téléphone de suite. Et après, par contre, c'est avec des personnes les plus âgées où c'est limite le plus compliqué. On a des surprises. Ouais, j'aurais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est souvent les personnes âgées qui avaient prévu d'utiliser leur téléphone où pour eux, c'est à eux et... On n'a pas à leur priver de quelque chose, quoi, j'ai envie de dire. Même si je ne touche pas le téléphone, voilà, c'est comme je dis, ce n'est pas du tout une obligation. Hein, c'est juste sous la forme de... Il faut que ça leur plaise et qu'ils aient envie de le faire. Hein,
et puis, vous ne contrôlez pas vraiment, c'est-à-dire que vous ne filmez pas les tables, vous n'allez pas vérifier qu'ils n'ont pas touché leur téléphone. Quoi.
Tout à fait. Non, c'est s'ils doivent le répondre, s'ils veulent jouer et qu'entre-temps, ils doivent répondre leur téléphone, ils répondent. Hein, je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas non plus une contrainte, hein. Il faut pas que ça soit que je, comme je dis, je veux pas me froisser avec mes clients, hein. Le but c'est que tout le monde s'y retrouve, et le but c'est pas de perdre des clients en disant, ah non, là-bas on n'a pas de liberté, quoi. Non, loin de là, moi je propose une petite animation, s'ils veulent jouer c'est super, s'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est quand même bien, voilà.
Comment vous est venue cette idée?
C'est un petit moment que j'ai essayé en tête, tout simplement un soir, si vous voulez, en faisant un tour du restaurant, comme j'ai l'habitude de faire. Je me suis aperçu qu'à ce moment précis, on va dire, quand je suis passé, il y avait peut-être 80% des clients qui avaient tête baissée sur leur téléphone.
Ah oui.
Et en voyant ça, ça m'a fait vraiment comme un petit électrochoc. Je me suis dit, tiens, les gens viennent au restaurant pour passer un moment, la plupart du temps, entre amis, en famille, voilà. Et ils profitent pas comme ils devraient.
Surtout que votre restaurant, il n'est pas austère. Hein. Je le décris pour nos auditeurs, mais c'est un diner à l'américaine, c'est-à-dire que c'est très coloré.
Oui, ouais, bien sûr. Je parle pour mon restaurant, mais après, je parle... Pour tous les restaurants, je veux dire, vous allez dans n'importe quel restaurant, c'est toujours une ambiance différente. Mmh. Il y a eu souvent des efforts faits pour la déco, en cuisine, il s'applique dans l'assiette aussi. Et souvent, ça m'est arrivé d'amener des assiettes et que les gens, tout juste, ils regardent le plat. Alors, soit vite, ils le prennent en photo, ils l'envoient sur Instagram, soit on le pose et juste merci, et hop, ils laissent le regard sur leur téléphone. Donc, c'est vrai que c'est des petites choses qui me gênaient un petit peu. Et là, du coup, je me suis dit, il faut arriver à faire quelque chose avec ça et si ça peut permettre de prendre conscience aux gens, mais ça serait, c'est super.
Eh bien, merci beaucoup pour cette initiative, ce défi, Adrien Martin.
Eh bien, avec grand plaisir.
Que vous lancez à vos clients dans votre restaurant, le Samy's Diner, c'est près d'Albi. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon début de matinée sur Europe 1, nous sommes le 24 janvier et au programme de la prochaine demi-heure, on blinde une série palpitante dans la prescription culture.
Oui, une plongée dans un thriller haletant et angoissant dont le décor n'est autre qu'un sous-marin nucléaire de la Royal Navy au cœur de ce monstre d'acier. Un marin est retrouvé mort. Vigile est une série britannique produite par la BBC et c'est le choix de Marie Jiquel. Rendez-vous dans 20 minutes.
Et puis rappelez-vous, on s'est tous découvert plus ou moins des talents de cordon bleu ou une passion pour le fait maison pendant les confinements. et ça n'a duré qu'un temps.
Oui, nous sommes nombreux à avoir repris nos vilaines habitudes. La pratique, le pratique, le rapide, le tout fait, ce sont les fruits et légumes frais qui en pâtissent, qui en font les frais, j'ai envie de dire. Leur consommation a baissé l'an dernier par rapport à 2020. Oui, c'était nul. On en parle dans un quart d'heure avec le secrétaire général de l'Interfel. C'est l'interprofession des fruits et légumes frais.
Anissa Haddadi de retour dans ce studio et le froid est bien là, force est de le constater.
Oui, on a beaucoup de valeurs négatives ce matin. Des gelées sévères, moins 7 à Brive, moins 6 à Montluçon, vous allez gratter les pare-brises si la voiture a dormi dehors. Moins 5 du côté d'Annecy et Clermont-Ferrand, moins 4 pour Agen et Auxerre, moins 3 à Valenciennes, moins 2 pour Lille et Pau. On a moins 1 à Paris, 0 degrés à Brest, 2 à Marseille et 4 à Nice. Alors cet après-midi, ça reste froid sur certaines régions avec 2 degrés à Dijon, 4 à Lyon et Belfort, 7 à Paris et Saint-Étienne, 12 à Limoges, 13 à Montpellier et 15 degrés la maximale pour Tarbes. Dans le ciel, grande prudence ce matin parce qu'avec toutes ces valeurs négatives, nous avons et les brouillards, nous avons un risque de verglas très important. Nous avons des brouillards sur toutes les régions situées au nord de la Loire, en Occitanie et dans le Rhône. Donc levez le pied, partez un petit peu plus tôt si vous le pouvez cet après-midi. Quelques nuages vont traîner sur le Val-de-Saône, le Languedoc, Roussillon et sur la Bretagne, mais partout ailleurs. Regardez cette belle carte, Julien, je vous l'ai amenée tellement elle est belle. C'est du soleil pour tout le monde l'après-midi, des petits soleils partout. Donc c'est écharpe et lunettes de soleil, quoi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1. Comment voulez-vous que les jeunes restent ? Il faut faire 40 bornes à chaque fois pour sortir. Mais il n'y a pas le potentiel de travail, il n'y a pas d'usine en Creuse, il n'y a rien en Creuse.
Le désarroi de cette restauratrice de la Creuse, confrontée au mal-être et au sentiment d'abandon du monde rural, les services publics ont déserté et les jeunes sont de plus en plus tentés par l'exil. Reportage dès le début de ce journal. La Creuse est la Haute-Vienne que va visiter à partir d'aujourd'hui Emmanuel Macron pendant 2 jours pour parler à cette jeunesse que l'on n'entend ni ne voit. Dans ce journal, l'entrée en vigueur du pass vaccinal aujourd'hui, alors que l'Organisation mondiale de la santé estime que l'Europe pourrait entrevoir la sortie de la pandémie avec le variant Omicron. Et puis, l'Open d'Australie de tennis, Gaël Monfils qualifié pour les quarts de finale. Le Français n'a peut-être jamais été aussi fort.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Faire oublier le président des villes, Emmanuel Macron, entame une visite de 2 jours dans la Creuse et en Haute-Vienne. Objectif, se rapprocher du monde rural et prendre le pouls de la jeunesse des champs. Premier constat, elle ne va pas bien entre désœuvrement et ennui. Si la campagne fait rêver les urbains en quête d'espace, cette jeunesse-là n'a qu'une envie, partir. Marion Gauthier a sillonné les routes de la Creuse pour recueillir leurs sentiments. Reportage.
C'est tout le temps comme ça. Il n'y a personne. Nulle part.
Guéret somnole. Un bar prisé des lycéens anime une petite rue du centre-ville. À l'intérieur, la plupart des habitués sont en première. Certains seraient bien restés dans la campagne de leur enfance.
Mais dans tous les cas, il n'y a rien à faire ici au niveau des grandes études, donc ça ne sert à rien de rester ici.
Il n'y a pas de faculté, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas grand-chose.
Rien qui retienne Théo, lui rêve de Bordeaux ou Toulouse, sans viser une formation en particulier.
J'ai qu'une envie, c'est de partir. Plus ça se rapproche, plus je suis content, quoi. Mais ça m'énerve d'être ici encore maintenant. J'ai envie de changement.
Pas de commerce, pas de jeunes, plus que des anciens.
À quelques kilomètres de là, Sylvie désigne les volets fermés du bourg de Moutier-d'Ahun. Proche de la retraite, la restauratrice cherche repreneur depuis 2 ans, sans succès.
Comment voulez-vous que les jeunes restent ? Il faut faire 40 bornes à chaque fois pour sortir. Mais il n'y a pas le potentiel de travail, il n'y a pas d'usine en Creuse, il n'y a rien en Creuse.
Il y a le lycée agricole, un peu plus haut. La majorité des élèves veut reprendre l'exploitation familiale, mais Sophie Azolin, la CPE, a vu leur nombre fondre, moins 200 inscrits en 5 ans.
Qu'on ne se dise pas, la Creuse, c'est le trou du cul du monde et il n'y a rien à faire là-bas, et s'il y a des jeunes, il faut les soutenir et les rassurer aussi.
Comme d'autres ici, elle veut croire à un renouveau creusois et note un effet du confinement. Des pancartes à vendre disparaissent et quelques volets rouvrent dans les villages. À 1, Marion Gauthier, Europe 1.
Et Emmanuel Macron, qui ne dira sans doute pas s'il sera candidat à un second mandat au cours de ce déplacement. À gauche, quelques 467 000 électeurs sont enregistrés pour participer à la primaire populaire. À partir de jeudi et jusqu'à dimanche, ils devront départager 7 candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont d'ores et déjà annoncé leur refus de se soumettre à ce vote.
La crise sanitaire, c'est aujourd'hui que le pass vaccinal entre en vigueur et il est loin de faire l'unanimité.
C'est un véritable changement de vie pour ceux dont le schéma vaccinal n'est pas complet. Fini les restaurants, les cafés, les transports longue distance et les lieux de loisirs comme les cinémas. Cette mise à l'écart, certains parlent de mise à mort sociale, vise les non-vaccinés. Mais la mesure divise, y compris au sein des vaccinés, 3 doses. Reportage Thibault Hue.
Quand on l'évoque, certains s'agacent. Le pass vaccinal, Fabrice l'attendait depuis longtemps, fatigué par les restrictions sanitaires.
Moi, je dis que c'est une bonne chose. Si on veut sortir un peu du bazar, faut qu'il y ait un maximum de gens qui soient vaccinés, c'est tout. Ceux qui ne sont pas vaccinés, on a moins de liberté à cause d'eux, pour une minorité de gens.
Christelle, elle aussi, espère qu'il sera enfin le moyen de retrouver la vie d'avant.
Moi, à choisir, je préfère ça, à me retrouver confinée à la maison. Ça permet aussi de pouvoir avoir accès aux magasins, aux restaurants, et ça me semble normal.
Mais ce nouveau pass ne fait pas l'unanimité. Johan est vacciné, mais ne soutient pas la mesure.
Je comprends pas qu'on oblige les gens à se faire vacciner, enfin de façon discriminatoire. Il n'y a plus aucune sortie, il n'y a plus aucun loisir, quoi. C'est punitif comme loi.
Anaïs a le même avis, elle juge le dispositif trop violent.
Moi, je trouve que c'est un peu limite, on est retourné au temps de la dictature, là, parce que ça attente à la liberté, sachant qu'on est un pays qui prône la liberté pour tous. Moi, je trouve ça inadmissible. Après, à voir.
Mais en attendant, ces réfractaires au pass vaccinal espèrent au moins qu'il sera suspendu après le 31 juillet.
Les manifestations hostiles au pass vaccinal ne sont pas sans provoquer des tensions et des débordements. Manifestations dans les grandes villes européennes, notamment comme à Stockholm ou à Bruxelles, près du siège de la commission, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre.
Au Mali, la mort d'un soldat français de l'opération Barkhane pose à nouveau la question du maintien de l'engagement de Paris.
Le brigadier Alexandre Martin est le 53e militaire mort au Sahel depuis 9 ans. Il a été tué lors de l'attaque terroriste du camp de base de l'opération Barkhane à Gao, bombardement au mortier qui intervient alors que les relations entre Paris et Bamako se sont considérablement dégradé. William Molinier, si les djihadistes devaient reprendre du terrain, est-ce que cela pourrait accélérer le retrait des troupes françaises au Mali ?
Eh bien, c'est là la situation totalement inconfortable dans laquelle se trouve Emmanuel Macron. Toutes les lignes rouges posées par la France ont été franchies. La junte n'a pas organisé les élections, elle a eu recours aux mercenaires russes du groupe Wagner et elle a entamé un dialogue avec les terroristes. Mais un retrait définitif du Mali serait très certainement profitable aux djihadistes. Cela déstabiliserait encore plus les pays frontaliers comme le Niger ou le Burkina Faso. Et en France, cela deviendrait évidemment en pleine campagne présidentielle un sujet de débats électriques. Et jusqu'à présent, Emmanuel Macron est resté très silencieux sur cette question. Pas sûr qu'il le soit encore longtemps si les conditions d'intervention sur place continuent à se dégrader.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Washington ne veut pas tenir Bruxelles à l'écart de la crise ukrainienne. Le chef de la diplomatie américaine s'entretiendra aujourd'hui par visioconférence avec les représentants des pays membres de l'Union. La Maison-Blanche redoute toujours une invasion russe et demande à tous ses ressortissants et diplomates en poste à Kiev de quitter la capitale.
Le tennis avec l'Open d'Australie et vous avez des nouvelles d'Alizée Cornet.
Oui, la Française qui, elle aussi, hein, vise à une place en demi-finale. Elle mène une manche à zéro face à la Roumaine Simona Halep et Alizée Cornet a fait le break dans la seconde. Elle mène 3-1, service à suivre. En attendant, eh bien, il y a un Français qui lui aussi pourrait, pourquoi pas, aller en quart de finale, en demi-finale. C'est Gaël Monfils qui va disputer son 10e quart en Grand Chelem. Gaël Monfils, c'est l'histoire d'un joueur talentueux et déroutant. C'est aussi l'histoire d'un clin d'œil. L'an dernier, c'est à Melbourne que tout a failli s'arrêter. 12 mois plus tard, eh bien, Melbourne est l'acte de naissance du nouveau mon fils, Jean-François Pérez.
Oui, Gaël Monfils avait ému le monde du tennis l'an passé à Melbourne. Éliminé dès le premier tour par un inconnu, il avait fondu en larmes en conférence de presse.
Je vais te donner la phrase simple de ma mère. Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra.
Nombreux étaient alors ceux qui anticipaient la retraite sportive de l'ex-numéro 6 mondial, mais le Parisien a tenu bon malgré des contre-performances parfois décourageantes. Il a continué de s'entraîner, écoutant les conseils de sa maman. Il a changé d'entraîneur, de raquette aussi. Il s'est marié, partageant son bonheur sur les réseaux sociaux. Gaël est redevenu mon fils, aucun set perdu depuis le début de la quinzaine australienne et un appétit d'ogre avant d'affronter le redoutable Berrettini, finaliste à Wimbledon l'an passé.
Un des meilleurs serveurs du circuit, beaucoup de point gagnant, un énorme coup droit, quelqu'un qui te bouscule vraiment, quoi.
Ce sera le 10e quart de finale de Gaël Monfils dans un tournoi majeur, comme Noah, dernier Français vainqueur en Grand Chelem, comme Tsonga, dernier finaliste il y a déjà 14 ans.
Et Monfils Berrettini, ce sera la nuit prochaine en football. Le PSG a largement battu Reims 4-0 en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Et puis la mort de Thierry Mugler, le grand couturier a régné sur les années 80. Il a révolutionné les défilés, notamment transformé en vaste show son et lumière. Thierry Mugler avait 73 ans. C'est proches précise qu'il s'agit d'une mort naturelle.
Et c'était le journal de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe. On passe aux courses avec les pronostics du Quintet signé Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer que va se courir ce Quintet. Parmi les 16 chevaux tous âgés de 4 ans, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection Il au secret, le numéro 10. 5 fois à l'arrivée pour autant de tentatives dans cette catégorie des Quintets et dont la régularité mériterait bien d'être enfin récompensée par une première victoire. victoire. On lui opposera Balmoral, le numéro 11, excellent troisième pour son premier essai à ce niveau le 20 décembre à Deauville et qui sur sa lancée devrait pouvoir confirmer en terminant à coup sûr dans les trois premiers. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 3, Air Beauty, une jument en constant progrès comme le prouvent ses deux dernières victoires très autoritaires à Chantilly puis à Pau, 6 Aviasor et 1 Watch Him, présenté par l'incontournable Christophe Ferland qui n'aime jamais courir ce genre de course sans avoir une réelle chance. Enfin les numéros 8 Marjane, 13 Hilarante et 14 Innovation compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 11, 3, 6, As, 8, 13 et 14.
10, 11, 3, 6, As, 8, 13, 14. Merci beaucoup Thierry Léger, des pronostics à retrouver sur Europe1.fr.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et on part ce matin à Alger, le Alger d'il y a 62 ans, où démarrait le 24 janvier 1960 la semaine dite des barricades, 8 jours d'insurrection menée par les partisans de l'Algérie française. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Alors ce qui a mis le feu aux poudres, Élise, c'est le limogeage du général Jacques Massu.
Oui, Massu, le fameux commandant du corps d'armée d'Alger, a été rappelé en France pour avoir ouvertement critiqué la politique du président de la République. Pour les partisans de l'Algérie française, déjà échaudés par la déclaration du général de Gaulle sur le droit des Algériens à l'autodétermination, c'en est trop. Ceux qui ont cru en le fameux « je vous ai compris » se sentent bernés. Une grève générale est décrétée. Les manifestants se massent dans les rues de la Ville Blanche. Très vite, les barricades sont érigées, le rassemblement tourne à l'affrontement. Écoutez le récit du journaliste Julien Besançon sur place pour Europe 1.
À 6h, les premiers coups de feu sont lâchés dans les rues d'Alger. Des grenades lacrymogènes éclatent un peu partout.
Dégagez la rue !
Vous entendez le bruit des armes automatiques. Les gaz lacrymogènes ont été jetés et l'atmosphère est étouffante, les yeux pleurent. Il est très difficile d'avancer dans le centre d'Alger. J'essaye actuellement de regagner la rue Pasteur pour transmettre. Plusieurs blessés sont là qui perdent du sang en abondance. Un garçon devant moi est transporté. Il a reçu une balle en pleine tête.
Le bilan est lourd, 22 morts et près de 150 blessés. Alors que le gouvernement de Gaulle appelle au retour au calme, les partisans de l'Algérie française se mobilisent, comme le député René Vinciguerra ou encore le maire d'Alger.
Pour la première fois dans l'histoire de France, des Français ont tiré sur d'autres Français, coupables de vouloir le rester. Le gouvernement de la 5e République a du sang sur les mains.
Il ne faut pas que le sang coule de nouveau à Alger. Il suffirait de quelques paroles venant de Paris pour donner la certitude aux Algérois et aux Algériens que la France est déterminée à conserver l'Algérie province française.
Élise, au lendemain de l'affrontement, le Premier ministre Michel Debré se rend sur place pour tenter de calmer le jeu.
Oui, mais rien n'y fait. Les insurgés promettent de ne rien lâcher tant que De Gaulle n'abandonnera pas l'autodétermination.
Et plus que jamais, si nous devons mourir, nous mourons tous français.
Sauf que le président français, lui non plus, n'en démord pas.
Les Algériens disposeront librement de leur destin. Cela ne leur sera pas dicté. L'autodétermination est la seule politique qui soit digne de la France. Elle est la seule issue possible.
Un discours qui portera ses fruits. À l'issue de négociations, les derniers insurgés se rendent à la fin de la semaine. D'autres s'enfuient, comme les leaders du mouvement Pierre Lagaillarde ou encore Joseph Ortiz. Les deux hommes obtiendront finalement l'amnistie présidentielle en 1968.
Merci beaucoup Élise Dangean. C'était le jour où vous connaissez le slogan « Manger 5 fruits et légumes par jour », une recommandation mal suivie ces derniers mois. A tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h43, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre et faites attention sur la route si vous partez au travail. Alors qu'ils avaient la côte pendant les confinements, on les cuisinait avec entrain et plaisir, les fruits et légumes ont été boudés par les Français l'an dernier. Les ventes ont baissé de presque 4% par rapport à 2020. On en parle, Ombline, avec Daniel Sauvêtre, le secrétaire général de l'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais.
Bonjour Daniel Sauvêtre.
Bonjour.
Moins 4% des ventes de fruits et légumes frais l'an dernier par rapport à 2020, comme vient de le préciser Julien. Cette chute est encore plus importante dans le rayon des fruits et légumes bio, moins 11% en 2021. Comment vous l'expliquez ?
Écoutez, on l'explique un peu difficilement, mais toutes les analyses qui ont pu être faites nous parlent d'un coup de fatigue de la part des consommateurs. On dit même un coup de fatigue. Il semblerait que les consommateurs qui, pendant le confinement, ont eu beaucoup plus de temps à passer à la cuisine et qui ont augmenté leur consommation de fruits et légumes frais, eh bien, en 2021, tout ça s'est un peu essoufflé et ça s'est accentué sur la fin de l'année 2021 et puis en début d'année 2022, on sent un peu de marasme, un peu d'inquiétude au rayon du fruit et légumes frais, hein, puisque on a des baisses de consommation sur certains produits avec des prix qui deviennent très attractifs et on souhaite voir revenir au rayon des consommateurs.
Donc ce que vous dites, c'est qu'on se met à nouveau à moins cuisiner. C'est du rapide, c'est du pratique, c'est du tout fait.
Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut supposer que beaucoup de choses ont été désorganisées par le télétravail ou par aussi cette période un peu tumultueuse qu'on a vécue depuis mars 2020. Et ce que l'on constate et ce qui nous inquiète, hein, et on va tout faire pour essayer de réenchanter le rayon des fruits et légumes et que le consommateur s'y intéresse à nouveau. Mais il y a réellement une baisse, on va dire c'est léger, c'est 4%, mais malgré tout c'est significatif.
Oui. Alors une consommation en baisse significative, hein, vous venez de le préciser, et des prix qui explosent. D'après l'association de consommateurs familles rurales, les fruits et légumes coûtent en moyenne 9% plus cher par rapport à il y a 2 ans. Là encore, connaissez-vous les raisons ? Peut-être que les deux données sont liées d'ailleurs.
Vous voyez, on est déjà en décalage. On vient d'évoquer la situation actuelle. Les familles rurales, comme nous avons fait le même constat entre 2019 et 2021. Donc, familles rurales se fondent sur les chiffres de l'INSEE et trouvent plus 9%. Nous, avec le panel Kantar, on est plutôt à 6,5%. Mais c'est vrai qu'il y a eu une hausse du prix moyen du panier de fruits et légumes entre 2019 et 2021. Mais entre 2021 et 2020, on était à plus 0,7. Autant dire que c'était quasiment étal. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plutôt en train de constater des baisses de prix qui peuvent être significatives. Vous voyez, si on parle de l'endive, du poireau et de la carotte, on a des baisses qui varient en ce moment en rayon entre moins 20 et moins 35%. La hausse, en fait, elle était liée, vous le savez, à la hausse de consommation qu'on a eue en 2020 parce que les personnes étaient confinées. Et donc là, ils ont plus consommé de fruits et légumes, plus cuisiné. Et 2021, on a subi un gel au printemps qui était vraiment très douloureux pour les producteurs, avec en plus des hausses des consommations d'énergie ou autres. Et donc, on a eu les mêmes prix quasiment que l'année précédente. Mais en revanche, là, nous arrivons dans une situation nouvelle avec, comme on vient de le voir, un peu de baisse de consommation et des prix qui sont plutôt à la baisse.
Alors, ce que vous dites, en fait, c'est que ça ne concerne pas tous les fruits et légumes frais. Ça fluctue en fonction du produit, en fonction des saisons.
Exactement, parce que chaque produit a sa météo-sensibilité, chaque produit a ses réussites ou ses échecs en production, et donc on a une variabilité de l'offre et de la demande qui concerne chaque fruit et légume, mais on a une tendance globale pour le rayon, et au-delà de cette tendance globale, eh bien, chaque produit a sa propre gestion à avoir. Avec, là, on parle aujourd'hui de l'endive, de la carotte et puis du poireau, mais demain, ça peut être, avec les fruits d'été, des situations nouvelles. Aujourd'hui, c'est notre actualité, ce sont ces trois produits.
Oui, c'est propre de la saison.
C'est le propre de la saison. Mais peut-être que ce qu'il faut indiquer, c'est que quand on présente les choses avec une statistique moyenne de hausse des prix, en effet, cela peut surprendre. Mais comme je vous l'indique, aujourd'hui, on aborde une situation nouvelle déjà depuis l'automne 2021. Eh bien, la situation est en train de s'inverser avec une offre un peu plus conséquente et puis des consommateurs qui sont moins fidèles au rayon. Et donc, la situation, la tendance pour les prix est plutôt à la baisse.
Est-ce que pour certaines familles qui n'auraient pas les moyens, même si les prix baissent, qui n'auraient pas les moyens de s'offrir un panier fruits et légumes garnis pour suivre les préconisations du plan national nutrition santé, c'est-à-dire consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, Famille Rurale propose ce chèque fruits et légumes à l'image du chèque énergie. Est-ce que vous avez un avis sur cette préconisation, sur cette idée ?
Oui, on a un avis puisque Interfel a travaillé avec Famille Rurale et est d'accord avec Famille Rurale sur cette proposition. Depuis déjà quelques mois, nous faisons cette proposition de dire on a des consommateurs qui sont loin de la consommation du fruit et légumes frais. Et donc, on a besoin de les réacculturer et les aider pour cela à se remettre à la consommation de fruits et légumes frais parce qu'on sait que c'est le moyen de lutte contre l'obésité, mais également c'est un objectif de santé publique que de consommer des fruits et légumes frais. Et on sait qu'on a une population qui s'éloigne de cette consommation. peut-être par le prix, mais essentiellement pour par praticité, comme pour d'autres consommateurs. Et donc, on pense qu'il y a une action tout à fait particulière. Mais ce chèque doit être accompagné également de pédagogie, qui doit être accompagné d'information.
Merci beaucoup, Daniel Sauvêtre, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire général de l'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. Merci, très bonne journée.
Merci à vous, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité de ce lundi, c'est le journal permanent Alban Le Prince.
Un café en terrasse, un film au cinéma. Désormais, pour y avoir accès, il faut présenter son pass vaccinal. Il entre en vigueur ce matin pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. Pour information, si vous êtes vacciné, pas besoin de mettre à jour votre application anti-Covid. Le monde de la mode, en deuil ce matin. On a appris cette nuit le décès de mort naturelle du créateur français Thierry Mugler. Âgé de 73 ans, il avait notamment lancé le mythique parfum Angel en 1992. À Melbourne, les Français en pleine forme après la qualification hier de Gaël Monfils pour les quarts de finale. Chez les dames, c'est Alizé Cornet qui dispute en ce moment sa place face à Simona Halep. La Française a remporté le premier set 6-4. Elle est menée 4 jeux à 3 pour le moment au deuxième.
Il est grand temps à présent d'accueillir dans ce studio notre spécialiste série.
C'est la prescription culture avec Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Marie. Alors attention, ce matin, vous nous proposez une chronique peu conseillée aux claustrophobes et pour cause, on prend la direction du Vigil, un sous-marin de la Royal Navy, avec cette mini-série disponible sur Arte.tv.
Oui, tout à fait. Arte opère un début d'année très réussi avec une programmation série très alléchante. On avait évoqué ensemble les Hautes Herbes avec Emmanuel Devos il y a quelques semaines. Il y a aussi La Corde, un thriller très philosophique en 3 épisodes que je vous conseille au passage. Mais là, parlons de Vigil, une série britannique produite par la BBC qui se trompe rarement, hein, il faut le souligner. On prend donc une grande respiration et on embarque à bord de ce sous-marin nucléaire, un monstre aux dédales sombres, aux règles précises et à l'absence de repères. Et c'est dans ce décor qu'un marin est retrouvé mort. On envoie donc l'inspectrice Amy Silva pour enquêter dans ce milieu plus qu'hostile.
Comment vous sentez-vous en espace confiné ?
Bienvenue sur le Vigil.
Comment se nomme la victime ? Il s'agit du premier maître Craig Burke. Je crois qu'il a été empoisonné.
Vous ne pouvez pas débarquer ici et transformer la salle de commande en scène de crime.
Ça suffit. Il avait des dossiers sur tout le monde.
On ne peut pas risquer un scandale.
Amy est toute seule dans un sous-marin et elle ne sait pas à qui elle a affaire.
Et malheureux hasard, hein. Évidemment, Amy Silva, notre héroïne, est claustrophobe et dépressive, en proie à ses démons.
Manque de peau.
Et ça va se corser. Cette mission qui devait durer 3 jours se transforme en séjour de plusieurs semaines. Cette mort suspecte sonne le début de l'intrigue qui peut rappeler le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie par la scène de crime assez insolite. Ici, un bâtiment de guerre.
C'est quoi le tube ?
C'est là où on conserve les torpilles. Ah, est-ce que ça va ? Ouais, si vous n'êtes pas couverte de bleu la première semaine, c'est que vous n'allez pas assez vite.
C'est grand comment ici ?
Ça fait environ 2 terrains de football en longueur et c'est aussi haut que 4 bus à Impérial.
Alors il va me falloir un plan.
Vous l'avez saisi, la série nous plonge dans les secrets d'une vie à bord, ces couchettes étroites, cette promiscuité et le manque de communication avec l'extérieur. Mais l'enquête ne se joue pas que sous l'eau. La coéquipière de l'inspectrice prospecte de son côté dans les milieux politiques, les associations contre le nucléaire et la marine russe. Il y a un peu du bureau des légendes hein, dans cette série, aux multiples rebondissements.
Bon, alors vous nous le promettez, on sera scotché devant ce huis clos haletant porté par des acteurs que l'on reconnaît.
Tout à fait, il y a la charismatique inspectrice Suren Jones qui incarnait Dr Foster, une série déjà produite par la BBC qui avait captivé les Anglais il y a quelques années. Sa coéquipière Rose Leslie que l'on connaît de Game of Thrones. Puis on retrouve le père de Billy Elliot en chef de police bienveillant. La série a très bien marché au Royaume-Uni, un succès d'audience. Et donc on peut se demander, même si l'enquête est bouclée à la fin du 6e épisode, hein, je ne divulgâche rien mais on le dit quand même, on peut se demander s'il y aura une seconde saison. Arte et la BBC ne se sont pas encore prononcés.
Et ça s'appelle donc Vigil. Si on prononce à l'anglaise Vigil, sans le dieu. Si on prononce à la française, c'est un Cluedo, quoi qu'il arrive, version sous-marin. Et c'est à savourer gratuitement sur la plateforme d'Arte, Arte TV. Merci beaucoup, Marie Jiquel.
Bonne journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 dans un instant sur Europe 1, la météo, le journal et un pass de plus.
Qui remplace le pass sanitaire pour les plus de 16 ans? J'ai nommé le pass vaccinal. Il fait son apparition aujourd'hui dans nos téléphones. Alors ça ne va rien changer pour vous si vous êtes vacciné. C'est le même QR code que vous ferez contrôler tout à l'heure, par exemple en allant déjeuner au restaurant. En revanche, si le serveur a un doute sur la validité de votre pass, il peut désormais, c'est la nouveauté, vérifier votre identité. Vont-ils réellement le faire, les serveurs? Quel impact ce pass sanitaire va-t-il avoir sur l'hôtellerie-restauration? Impact double, puisque les salariés devront eux aussi présenter ce pass pour pouvoir travailler. On en parle dans une dizaine de minutes avec l'un des représentants du secteur, Didier Chenet, le président du GNI. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Sa poésie est accessible à tous.
Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi du but.
La poésie urbaine signée Renaud. En attendant la suite, on retournera en 1980 dans 20 minutes parce qu'il y a un album qui se prépare.
Ah. Et il y a une météo qui se prépare avec Anissa Haddadi. Ma chère Anissa, oui. C'est un temps bien calme pour ce lundi.
Bah oui, parce qu'on a toujours ce bel anticyclone qui nous protège. Il va être là encore quelques jours. Alors il nous protège du vent, de la pluie, des perturbations, ça c'est certain. Il nous amène même du soleil cet après-midi. Mais le matin, l'anticyclone provoque des brouillards, des nuages bas très nombreux sur toute la moitié nord. Soyez extrêmement prudents. On a des nuages bas jusque sur l'Occitanie, des nuages qui en plus avec les températures négatives provoquent des brouillards givrants, donc attention sur les routes ce matin. Dans le sud, on a des entrées maritimes sur le golfe du Lion et la Corse. C'est un petit peu plus gris du coup et ça va le rester dans la journée. Dans l'après-midi, c'est du grand soleil pour tout le monde, sauf sur le Val-de-Saône, le Languedoc où là on a des entrées maritimes et puis sur le Finistère et le Cotentin, où on a des petits passages nuageux mais rien de très inquiétant. Les températures, faut se couvrir aujourd'hui. Moins 7 à Brive, moins 6 à Manosque, moins 5 pour Grenoble, moins 3 à Lyon et Saint-Étienne, moins 2 à Chartres, moins 1 à Paris, 2 à Cherbourg et 4 à Nice. Cet après-midi, 2 à 15 degrés.
On se couvre donc. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1 ? Vous avez bien raison. Il est tout juste 6h. Très bon réveil à tous. L'Élysée cherche la bonne fenêtre de tir, celle pour permettre à Emmanuel Macron de se déclarer candidat. Le chef de l'État est dans la Creuse aujourd'hui, un déplacement dans le monde rural et dans la course au parrainage. Faut-il être inquiet? Le variant BA2 interroge les scientifiques. Il se répand pour l'instant au Danemark où l'épidémie repart à la hausse. Ce petit frère d'Omicron est aussi présent en France. Et puis nous irons en Chine pour découvrir des restaurants automatisés en plein développement avec l'épidémie. Ce sont des robots qui préparent les plats et assurent le service. Démonstration avec le reportage à venir de notre correspondant.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron repart en campagne. Le chef de l'État dans la Creuse aujourd'hui, puis la Haute-Vienne demain. Deux jours pour parler zones blanches, déserts médicaux et agriculture. Le président, toujours pas officiellement candidat, qui comptabilise déjà les promesses de parrainage. 500 minimum pour rester dans la course, une formalité pour le chef de l'État. La collecte démarre officiellement cette semaine auprès des députés, conseillers régionaux et des maires. Dans le Var, un élu laisse le choix à ses habitants. Ils décideront eux-mêmes du parrainage de leur maire. Premier tour du scrutin dès le week-end prochain. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
En tant que maire, vous avez déjà une vision de la chose.
Dans les rues du village ou en mairie, Olivier Hoffmann n'hésite pas à expliquer sa démarche aux administrés venus le rencontrer. Et chaque foyer a reçu un prospectus pour annoncer la consultation.
Le but de la démarche, c'est de ne pas m'exprimer en nom propre. Donc moi, je serai le relais de la population.
Je pense que c'est une bonne démarche.
Dans ce village de 2000 âmes, au cœur de la Provence verte, l'idée séduit.
Ça demande l'avis à tous les habitants de Saint-Assisi-sur-Isole. C'est participatif, c'est démocratique.
C'est important que ça ne soit pas le choix que du maire, quoi. C'est le choix de tout le monde.
De toute façon, c'est un maire sans étiquette, donc c'est normal qu'il ne se sente pas la responsabilité d'avoir tout sur le dos, lui.
On compte aussi, donc pour nous c'est très positif.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune pourront voter.
La liste de tous les candidats sera affichée à l'entrée de la salle de vote. Les candidats déclarés et ceux en passe de l'être. La démocratie donne l'opportunité aux communes de pouvoir s'exprimer, donc il faut le faire. Et la seule façon de le faire sans s'engager politiquement, c'était de le faire vis-à-vis d'une consultation citoyenne. Ça nous a semblé le moyen le plus simple à notre échelle de réaliser ce parrainage.
Le maire affirme qu'il respectera le vote candidate si au moins 400 personnes se déplacent, soit un quart des électeurs. À défaut, le dépouillement n'aura pas lieu et aucun parrainage attribué.
Le reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. L'autre scrutin prévu le week-end prochain, c'est celui de la primaire populaire de la gauche qui comptabilise près de 467 000 inscriptions. C'est 4 fois plus que pour le congrès LR ou la primaire écologiste à l'automne.
Vous avez plus de 16 ans et vous n'êtes pas vacciné. Le quotidien va sérieusement se compliquer avec l'entrée en vigueur ce matin du pass vaccinal. Ce nouveau QR code est généré automatiquement sur l'application Tous Anti-Covid.
360 000 nouveaux cas de Covid en moyenne chaque jour. Grâce à Omicron, la fin de l'épidémie en Europe est plausible, avance l'OMS. C'est sans compter en tout cas la présence d'un nouveau variant BA2 détecté au Royaume-Uni, au Danemark et même en France. Pour Olivier Véran, cela ne change pas la donne. Les épidémiologistes, eux, optent pour la prudence. Yasmina Katou.
C'est un petit variant qui reste encore mystérieux. Le sous-variant d'Omicron, BA2, est apparu au mois de décembre, presque en même temps que la souche originelle. Il s'est répandu rapidement en Inde, aux Philippines et plus proche de chez nous, au Danemark. Chez les Danois, BA2 serait devenu le variant majoritaire, ce qui pourrait être préoccupant, explique Antoine Flao, épidémiologiste.
Ce sous-variant semble particulièrement contagieux. Il est vrai qu'autour du 15 janvier, on s'attendait à un pic épidémique au Danemark. Et ce pic semble retardé. La question vraiment qui se pose est de savoir s'il n'est pas à l'origine de cette remontée des contaminations au Danemark.
En France, on sait que BA2 est chez nous, mais reste difficile à tracer. D'abord parce que les séquençages sont moins nombreux. Ensuite, parce que faire la différence entre Omicron et celui que l'on surnomme Omicron furtif demande plus de temps d'analyse. BA2 est-il plus dangereux? Résiste-t-il au vaccin comme Omicron? Il est encore trop tôt pour le dire. Le ministère de la Santé va suivre de près les analyses qui seront produites par le Danemark.
Yasmina Katou.
Et à 10 jours des Jeux d'hiver de Pékin, le variant qui inquiète la Chine, c'est bien Omicron. Les autorités de la capitale chinoise ont annoncé hier le dépistage de 2 millions d'habitants après la découverte d'un foyer épidémique.
Et pour limiter les contacts, le pays a trouvé une parade avec le développement des restaurants automatiques, intelligents, dans une centaine d'établissements. Ce sont tout simplement des robots qui préparent les plats et assurent ensuite le service. Le reportage de notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik.
On se croirait dans un vaisseau spatial avec ses lumières bleutées, son réseau de rails et de tuyaux dans lequel circulent les plats et son armée de petits robots blancs chargés de plateaux et montés d'un écran clignotant. Ici, tout est automatisé, explique le patron Wang Jin.
Il y a plusieurs systèmes. Les plats volumineux comme les steaks et les hamburgers sont apportés par des robots et les autres sont envoyés par ce système de rails automatique et arrivent pile devant le client.
Seuls quelques serveurs humains, ceux-là, sont en poste pour répondre aux questions des clients. Mais l'objectif, c'est d'éviter autant que possible les contacts et donc les risques de tomber malade. Cette jeune Pékinoise est adepte de ces nouveaux restaurants.
On sort beaucoup moins qu'avant avec l'épidémie. Mais ce type de restaurant, je trouve que c'est amusant. C'est plus hygiénique, c'est bien mieux comme ça, il n'y a pas de risque.
On trouve de plus en plus de ces androïdes dans les restaurants chinois, moins cher qu'un serveur, plus efficace et jamais malade. Le système est si bien rodé que les repas des athlètes pendant les Jeux Olympiques de Pékin seront aussi préparés et livrés par des machines. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
6 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. On revient en France avec une femme à la tête d'Orange. La nomination devrait être actée cette semaine lors d'un conseil d'administration prévu vendredi.
Christelle Heydemann, voilà celle qui devrait succéder à Stéphane Richard. L'ancien patron a présenté sa démission en novembre. Cette polytechnicienne de 47 ans fait partie des favoris avec déjà un soutien crucial, celui de l'État, premier actionnaire de l'opérateur historique Aurélien Fleureau.
Il ne reste plus que quelques détails à affiner et la nomination de Christelle Heydemann sera officialisée. L'actuelle vice-présidente Europe de Schneider Electric, 47 ans, faisait partie de la liste établie par un cabinet de chasseurs de tête à la demande du conseil d'administration d'Orange. Stéphane Richard avait même soufflé son nom bien avant sa condamnation en appel dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais le 24 novembre dernier. Mais l'appui décisif en faveur de cette polytechnicienne qui a passé 15 ans chez Alcatel a été celui de l'État, premier actionnaire d'Orange à hauteur de 23%. Malgré des frictions au sein du conseil d'administration, notamment à cause de cette intervention de Bercy et de l'Élysée, l'arrivée de Christelle Heydemann semble accueillie positivement en interne. Elle coche beaucoup de cases, me disait un cadre haut placé. Elle a notamment occupé un poste de directrice des ressources humaines. Le social, un sujet toujours ultra sensible chez Orange, d'autant plus que parmi ses premiers chantiers, il y aura celui de la masse salariale de l'opérateur télécom et de son évolution vers de nouveaux métiers.
Aurélien Fleureau. Vous aurez reconnu le tube forcément Vogue de Madonna, la chanteuse dont les corsets étaient signés Thierry Mugler. Le couturier est mort cette nuit à 73 ans. Le créateur français salué d'ailleurs par Beyoncé et Diana Ross. Des épaules accentuées, des décolletés plongeants, c'était le style de la femme Mugler incontournable dans les années 80. Une exposition lui est d'ailleurs consacrée en ce moment au musée des arts décoratifs à Paris.
C'est noté, merci beaucoup Romain Hoquet pour toutes ces informations.
Il est 6h07, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Et tout de suite, Martin, direction l'Australie. Élisée Cornet est sur le court en ce moment même.
Oui, la Française vient de lâcher le deuxième set. Hein, une manche partout donc face à la Roumaine Simona Halep. Élisée Cornet qui pourrait rejoindre Gaëlle Monfils en quart de finale.
On passe au foot avec la démonstration du PSG hier soir.
Oui, les Parisiens ont écrasé Reims 4-0 avec notamment un doublé de Marco Verratti. L'Italien qui n'avait plus marqué depuis plus de 4 ans pour le PSG. Un petit événement donc salué par son coach Mauricio Pochettino.
Pour moi, l'équipe a fait un bon match. On devait le gagner et on a pris 3 points. C'est ce que je retiens d'essentiel. Je suis content pour Marco Verratti. C'est bien qu'un joueur qui ne marque pas souvent comme Marco le fasse.
Le PSG qui reste évidemment leader du championnat devant Nice, tombeur de Metz 2-0. En bas du classement, Bordeaux respire un peu mieux après sa victoire 4-3 contre Strasbourg. Les Girondins 17e ont un point d'avance sur le barragiste Metz.
Handball est déjà un match couperet pour les Bleus à l'Euro.
Oui, l'équipe de France affronte le Monténégro ce soir après le trou d'air contre l'Islande ce week-end. Une nouvelle défaite condamnerait les Bleus et même une victoire ne leur assurerait pas la qualification pour les demi-finales. Mais leur entraîneur Guillaume Gilles refuse de faire des calculs d'apothicaire. Écoutez.
Aujourd'hui, la seule chose sur laquelle on se centre, c'est cette idée de rebond. Pour effacer cette déception, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de très rapidement se projeter sur le prochain adversaire et de pouvoir prétendre à un dernier match pour jouer une qualif.
Guillaume Gilles qui, comme Quentin Mahé et Karl Konan, est toujours à l'isolement. Le Covid qui bouleverse aussi le rugby. Toulouse et Bordeaux ont perdu ce week-end en Coupe d'Europe sur tapis vert à cause de cas positifs. Des contaminations qui ont par ailleurs obligé le staff du 15 de France à remplacer 9 joueurs, dont le capitaine Antoine Dupont. Les Bleus qui sont réunis à Aubagne depuis hier soir pour préparer le tournoi Destination.
L'exploit du week-end pour finir, Martin.
Oui, c'est celui de Sébastien Lhomme, vainqueur hier du rallye de Monte-Carlo à 47 ans. C'est sa 80e victoire en WRC, peut-être la plus inattendue.
C'est surtout le moment qui est sympa, c'est d'avoir réussi encore aujourd'hui à gagner un rallye alors que mon dernier championnat complet était il y a 10 ans. C'est un peu inespéré. Franchement, je ne pensais pas être capable de gagner le Monte-Carlo encore cette année, mais ouais, c'était top, c'est un grand moment.
Sébastien Lhomme qui décroche un nouveau record, plus vieux vainqueur d'un rallye.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant cette question. Le secteur de l'hôtellerie-restauration va-t-il faire les frais du pass vaccinal qui entre en vigueur aujourd'hui? On en parle dans deux minutes avec l'un des représentants du secteur, Didier Chenet, le président du GNI. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h12. Votre invité Julien est le président du GNI, le groupement national des indépendants hôtellerie et restauration.
Bonjour Didier Chenet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors que le pass vaccinal est entré en vigueur ce matin pour les plus de 16 ans, il est désormais exigé dans presque tous les lieux où le pass sanitaire était nécessaire jusqu'à présent, dont les hôtels et restaurants que vous représentez. C'est un frein supplémentaire à votre activité?
Je ne pense pas. Lorsqu'on a mis en place le pass sanitaire, nous avons tous craint qu'il y aurait des problèmes. Ça s'est passé relativement bien. Aujourd'hui, on constate que c'est rentré dans les mœurs. Je pense que le pass vaccinal, ne sera pas une contrainte supplémentaire dans la mesure où, encore une fois, nous n'avons pas le contrôle systématique à faire entre le porteur du pass vaccinal et l'identité de la personne.
On va y revenir sur ce contrôle facultatif.
Oui.
Ce que vous nous dites, en revanche, c'est que les anti-vax ont déserté votre clientèle depuis bien longtemps.
Oui, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas venir chez nous. Peut-être certains sont-ils passés au travers des mailles du filet, mais la grande majorité, non. Ils ont préféré rester chez eux.
Alors vous le disiez, ce pass vaccinal s'accompagne d'un pouvoir supplémentaire en ce qui vous concerne. Vous pouvez désormais vérifier, non pas contrôler, vérifier l'identité d'un client que vous suspectez de frauder. En toute honnêteté, vous avez vraiment fait ?
Écoutez, s'il y a vraiment des questions, j'allais dire évidentes, de présentation d'un faux pass vaccinal, bien sûr, on le fera. Vous dire si ça se passera bien, dans certains cas, vraisemblablement, et puis dans d'autres, peut-être que ce ne sera qu'une erreur de présentation d'un pass vaccinal.
Alors je précise que c'est une prérogative que vous avez déjà, notamment si vous avez un doute sur la majorité d'une personne qui vous commanderait de l'alcool, vous pouvez déjà vérifier son identité et son âge. Là où le pass vaccinal pourrait vous pénaliser, en tout cas c'est ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'il s'applique aussi à vos salariés, vu que vous faites partie des ERP, les établissements recevant du public. Donc ça veut dire que ce matin, dans tous les restaurants et hôtels de France, ça va être vérification générale ?
Alors, ce sera vérification générale. Ça veut dire aussi que vous avez vu qu'il y a quelques adaptations concernant le pass vaccinal. Donc, certains de nos salariés, puisque en cuisine, nous n'étions pas tenus d'avoir le pass sanitaire. Certains de nos salariés ne seront pas totalement à jour pour le pass vaccinal. Il y a quelques dérogations. Nous ferons en sorte qu'ils soient donc, je dirais, traités et qu'il n'y ait pas de difficultés supplémentaires, pour le coup, en matière de production dans nos établissements.
Vous estimez qu'il y a un risque de perdre encore davantage de salariés, sachant que vous êtes déjà en pénurie ?
Oui, on peut le penser, mais c'est très très marginal. Aujourd'hui, 95% de nos salariés sont vaccinés. Donc, je dirais, c'est ce qui nous amène d'ailleurs à dire encore une fois que nos établissements sont des établissements que nous considérons comme être des établissements parfaitement, je dirais, sains et où vous avez une sécurité maximum. Nous l'avons voulu de toute façon, cette sécurité, aussi bien pour nos salariés que pour nos clients. Donc voilà.
Ça, c'est pour le pass vaccinal. Didier Chenet, venons-en maintenant aux restrictions qui touchent votre secteur et qui vont prendre fin dans les prochaines semaines. Alors, on pense tout de suite à l'interdiction de consommer debout qui sera levée le 16 février. Mais il y a aussi le télétravail obligatoire, oui, 3 jours par semaine, qui impacte fortement l'activité des restaurants, notamment. Vous êtes soulagé que cette mesure prenne fin la semaine prochaine, le 2 février ?
Ah oui, on est soulagé parce que c'est certainement les deux mesures qui ont été le coup de grâce pour l'activité depuis le début janvier, fin décembre, début janvier. Il faut que vous sachiez que notre secteur, rien que la consommation debout, met le secteur des traiteurs organisateurs de réception à bas. Vous n'avez plus aucune réception, vous n'avez plus rien. Ensuite, vous avez aussi, au niveau des restaurants, lorsqu'on a dit qu'il fallait supprimer les fêtes de fin d'année, supprimer les cérémonies de vœux, les galettes, c'est autant d'événements qui sont organisés dans les restaurants, qui ont tout. Pour ceux qui ont des salles supplémentaires, autant d'événements qui n'ont pas eu lieu. Et c'est valable aussi pour les hôtels. Parce qu'à partir du moment où vous supprimez un certain nombre de cérémonies, eh bien vous avez un certain nombre de salariés qui, ne travaillant pas au siège forcément, et donc viennent des différents coins de la France, eh bien ne viennent pas loger à l'hôtel. Donc ça a été une cascade pour nous, donc de contraintes, et qui effectivement a pas ressenti et s'est fait fortement ressentir sur notre activité.
Donc au total, nous sommes le 24 janvier, vous estimez la chute de votre chiffre d'affaires pour ce mois-ci environ de combien à la louche ?
Alors, c'est toujours très difficile parce que c'est à la louche, et je vais vous dire un chiffre global, mais globalement, c'est au minimum 50% de baisse de chiffre d'affaires.
Vous avez des aides ?
Nous avons des aides, nous avons eu deux sortes d'aides. La première qui était une aide qui allait pour jusqu'à moins 50% de chiffre d'affaires. Et puis là, nous avons négocié avec Bercy une aide qui va de moins 30 à moins 50. Je dois dire que dans cette affaire, nous avons toujours été suivis par le gouvernement, toujours aidés. Et là, nous remercions donc notamment Bruno Le Maire et ses équipes parce que nous bénéficions effectivement d'un soutien qui est un soutien tout à fait exceptionnel.
On l'entend. Didier Chenet, le GNI que vous présidez, ainsi que les autres organisations patronales du secteur, ont adopté, après négociation, un barème revalorisé prévoyant une augmentation moyenne des salaires de 16,33%. Quand est-ce que ce sera effectif sur les fiches de paie des serveurs, des cuisiniers qui nous écoutent à l'heure actuelle ?
Dès que ce que l'on appelle techniquement cet accord sera étendu. Cet accord donc a été notifié au ministère du Travail. Il reste maintenant au ministère du Travail d'étendre cet accord. Nous espérons que ce sera fait pour début mars, avec une accélération du processus, parce que c'est souvent très long, c'est administratif.
Sachant que vous avez d'autres négociations qui sont prévues dans les mois à venir sur les conditions de travail autour.
Absolument, que nous sommes parfaitement conscients que l'attractivité de nos métiers ne porte pas simplement sur des problèmes de salaire. Ça porte également sur les conditions de travail. Nous sommes dans une activité qui marche, je dirais, de façon asymptotique et différente entre ceux qui travaillent, je dirais, normalement, et puis nous, parce que nous travaillons à midi, le soir, nous travaillons les week-ends et tous les moments de fête.
Ça sera l'occasion de vous inviter à nouveau pour l'ouverture de ces négociations prévues dès le mois prochain, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Didier Chenet, président du GNI, le Groupement National des Indépendants, Hôtellerie et Restauration, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée et à très bientôt sur Europe 1.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
À 6h19, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Début de semaine chargée pour Emmanuel Macron. Le président se rend dans la Creuse aujourd'hui pour rencontrer les différents acteurs et échanger avec eux sur les problématiques et enjeux rencontrés dans le territoire. Demain, le rendez-vous est donné dans la Haute-Vienne. Avec une dizaine de jours de retard, entrée en vigueur ce matin du pass vaccinal, désormais tous les plus de 16 ans doivent le présenter pour manger au restaurant ou voyager en train ou en avion. La fin de la pandémie en Europe est plausible grâce à Omicron, estime de son côté l'OMS. D'ici le mois de mars, 60% des Européens pourraient être infectés par le variant.
On termine avec votre partition, Blin. On l'entend sur le dernier album de Benabar. Renaud prépare à son tour la sortie d'un nouveau disque composé de chansons qui l'ont marqué.
Celle d'Yves Montand, Jean Ferrat, Georges Moustaki ou encore Hugo Frey.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.
Pas encore voyou et blouson noir, sa casquette à la gavroche penche sur le côté en ce début des années 70. Le jean pas de def se porte encore taille haute et c'est justement Hugo Frey qui lui donne envie de prendre une guitare. Fan absolu du chanteur, Renaud fredonne sans piano à la moindre occasion.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
10 ans après ses débuts, les pattes d'Ef reléguées aux oubliettes sont remplacées par le bandana rouge.
Oui, le bandana du bandit. Il dédie son nouvel album à l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, tué par la police quelques mois avant qu'il ne s'installe au studio Ramsès à Paris pour l'enregistrement de ses nouvelles chansons. Et on ne voit que ce bandana d'un rouge éclatant sur la pochette de l'album Marche à l'ombre, alors que la photo de Renaud est prise en noir et blanc.
Le chanteur annonce la couleur, vaut mieux pas lui chercher des noises.
Ouais, ce parigo teigneux qui n'a pas froid aux yeux nous transperce de son regard derrière une vitrine cassée. En 1979 donc, après 3 albums, le succès arrive enfin et cette reconnaissance, Renaud la doit à un disque bien plus rock que les précédents.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé.
Un disque plus rock et plus corrosif.
Il est provocant, insolent, un zonard qui reproduit les codes vestimentaires des quartiers. Avec sa poésie urbaine entre argot et calembour, surmontée de ses talents d'observateur, Renaud asticote la bien-pensance. Il devient même un exemple à suivre. Selon l'économiste Jacques Attali, il est préférable de se plonger dans les textes de Renaud que les analyses de 3 sociologues réunis.
La force de Marche à l'ombre, c'est ce formidable défilé de personnages.
Oui, nouvelle galerie de portraits gratinés dans la chanson Marche à l'ombre, qui comme Lesbéton, son deuxième album, devient une expression à part entière. Le baba cool Cradock, la petite bourgeoise bêcheuse et le Rocky Barjo sont les ennemis du loubar, des clients qu'il vire, Manu Militari de son rade, cet humour grinçant de Renaud. Michel Blanc s'en souviendra quelques années plus tard quand il réalisera son premier film.
Quand Babacool Cradock est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade, patchouli, patogas, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées, tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles, pour se barrer à Katmandou ou au Népal, avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse, maquillée comme un carré d'as, a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, et reluc la tronche à la pouviasse, fils la culasse et les nibards. Collant léopard, homologué chez SPA, Monoï et Chalimard, putain dans Sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais S3 au palace, je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glands.
Marche à l'ombre, comme l'album de 1980, comme le film avec Gérard Lanvin, à qui Renaud a piqué la femme, hein, Dominique, hein, devenue sa gonzesse. On attend son retour, le retour de Renaud, dans les bacs, d'ici quelques semaines.
C'est noté, merci beaucoup Omblin. Vous restez avec nous, la matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée sur Europe 1.
Et on vous dit à demain, 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.